Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun, dans notre émission pour les petits et les grands. Nous avons habituellement l'habitude de lire quelques contes. Aujourd'hui, c'est un conte en fait qui est tiré d'une histoire réelle, qui se passe d'ailleurs au nord de Châteaudun, à Marboué, à 6 km au nord de Châteaudun, et au début du 19e siècle, c'est-à-dire à la fin de l'épopée napoléonienne. Et Jean-Claude Gainderne qui va nous raconter cette histoire, à la retrouver dans la généalogie de ses ancêtres. Et nous avons toujours à la régie Jean-Marie Moreau et au micro Henri Méchel.
Oui, alors, en 1836, Jean-Jacques Gainderne, ancien officier d'Empire, était maire de la commune de Marboué. Et Louis-François Motu, jeune prêtre d'une trentaine d'années, exerçait son ministère. Dans la matinée du 12 mai 1836, le maire était avisé de la disparition de deux jeunes gens de la commune, Constant Guyon, 26 ans, et Rosalie Bénard, 24 ans. Une rapide enquête permettait d'orienter les recherches. En effet, Alexandre Guyon, rentrant à son domicile au Petit Bois, alors qu'il longeait le Loir à hauteur du gué de Grélard, avait entendu le bruit d'une chute. Au matin, ne voyant pas son frère, il alerta et retourna sur les lieux. Et, dans un petit pré, à côté de l'ancienne source de Grélard, une casquette, un Christ, une Vierge en cire et un écrit en guise de testament. Du 12 mai 1836 à 2 heures après minuit, voilà l'endroit où deux aimables cœurs ont fini leur dernier moment de leur vie. Ils ont écrit ce billet pour inviter les personnes qu'ils désiraient être présentes pour être portées en terre. C'est Constant qui vous invite. Je vous prie, Oudebine, fils aîné, Mercier, Pierre, Hue et Paul Houdin, je vous prie en larmes de venir m'accompagner au tombeau et à celui de mon aimable ami. C'est moi, Rosalie, qui vous invite. Je vous prie, les deux demoiselles Guillot, Estelle Corras et Florence Alvis, je vous prie en larmes de venir m'accompagner au tombeau et à celui de mon aimable ami. Bon cœur, priez pour nous. Je meurs pour elle, elle meurt pour moi. Nous désirons être tous deux dans la même fosse. Constant Guyon, Rosalie Bénard. Le maire alerté a fait mettre aussitôt les eaux basses et fait pêcher au grand filet. Le 16 mai vers 11 heures, on retrouve les deux jeunes gens, serrés l'un contre l'autre, liés par la taille avec un cordon jaune et deux mouchoirs de poche. Que s'était-il passé ? Constant Guyon, encouragé par sa famille, avait demandé en mariage Adèle Houdebine, demeurant au bourg. Mais celle-ci lui avait préféré un jeune agent des ponts et chaussées qui avait dirigé le chantier de construction du pont de pierre de Marboué sous la direction de Guérineau de Boisvillette. Constant se lia alors d'affection avec Rosalie Bénard, face de chambre de Mademoiselle Étienne, demeurant au château du Plessis, proche de la ferme natale du Petit Bois. La liaison des deux jeunes gens était sérieuse et profonde, et ils étaient fermement décidés à la consolider par un mariage ardemment désiré. Ce projet n'était pas du goût des parents de Constant, plus disposés à jauger les fortunes des familles que les sentiments des jeunes promis. Et malgré les supplications, les prières, les menaces même, la mère de Constant refusa de donner son consentement, jugeant avec sévérité que son fils voulait déshonorer les siens. « Demain, le déshonneur sera encore plus grand », répondit le jeune homme désespéré. Son ultime appel de détresse ne fut pas entendu, mais son destin implacable était déjà inscrit sur son front. Rosalie et Constant se rendent à Châteaudun, où le malheureux acheta une alliance qu'il mit au doigt de celle qu'il regardait comme sa fiancée pour l'éternité. l'éternité de la mort qu'il va affronter sereinement, puisque la vie lui refuse de bonheur avec celle qu'il aime passionnément. La douce Rosalie ne peut accepter son sacrifice que si elle le partage avec lui, et désormais leur décision est irrévocable. Après avoir passé plusieurs heures en prière, à l'aide d'ouvrages de piété qu'ils étaient allés demander à la marraine de Rosalie, les deux amants, la mi-nuit passée, allaient trouver dans la mort la paix de leur cœur. Leur disparition avait alerté l'attention de tout le pays du Noix et leurs funérailles furent le prétexte d'un incident sérieux qui eût pu provoquer un second drame.
Eh bien, nous allons maintenant faire une petite pause musicale avant de retrouver nos chers Roméo et Juliette. Retournons maintenant à Marboué, au sud de Châteaudun, où a eu lieu une évolution terrible de deux jeunes adultes qui n'ont pas pu mener à bien leur tout ce qu'ils souhaitaient.
Oui, donc, ce drame qui venait de se dérouler donc à Marboué, a eu un retentissement absolument, on peut dire, dans tout l'évêché de Chartres, très important. Pourquoi? Parce que le prêtre des servants, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune prêtre, l'abbé Motu, ne pouvait que respecter les lois de l'Église et refusa la sépulture religieuse. Il s'était suicidé, ces jeunes. Donc, il ne pouvait pas les recevoir dans son église. Donc, à 30 ans, au début de son sacerdoce, il ne pouvait se permettre aucune licence. D'autant que son évêque, Mgr Clausel Montal, était en séjour l'autre des châtelains des Coudreaux. Et le châtelain des Coudreaux, à cette époque, en 1836, était un personnage important. C'était le maréchal comte Reille, qui était un des maréchaux les plus importants de Napoléon lors de la bataille de Waterloo. C'était lui qu'il commandait d'aile gauche. Ami personnel de Soult, qui était devenu le chef d'état-major de Napoléon. Donc personnage extrêmement important, qui avait évidemment, en 1815, épousé donc la bonne cause. Donc il avait reconnu le bien fondé du retour du roi. Donc il avait conservé le château des Coudreaux, qui pour l'histoire, il faut se rappeler, avait appartenu au maréchal Ney. Donc Mgr Clausel de Montal était en séjour l'hôte du maréchal Contreille. Il faut dire que le prélat chartrain était d'une rigueur extrême. C'était un évêque qui était très à cheval sur le règlement et la foi. Donc, il était très sévère, autant pour ses prêtres que pour lui-même, sur l'observance de la discipline religieuse. trois ans auparavant, ayant destitué comme schismatique l'abbé Ledru, curé de Lèves. Monsieur de Montal fut confronté à une violente émeute qui se termina par le pillage de son palais épiscopal, mais il ne recula point d'un pouce, refusant même l'archevêché de Bordeaux, un exil doré, et la Légion d'honneur. Donc on n'achetait pas Monseigneur Clausel de Montal. Il n'était pas question. Donc, difficulté, évidemment, la prudence du jeune curé de Marbouët. Parce que il dit, si je transgresse les règles, ça va être terrible pour moi. Cependant, les événements vont se précipiter dans le bourg, où 2 à 3 000 personnes s'étaient réunies pour assister aux obsèques, menaçant de mort le curé s'il persévérait dans sa volonté de refuser la sépulture religieuse. Donc nous sommes à la limite de l'émeute à Marbouët. Devant l'ampleur de cette situation qui pouvait rapidement devenir tragique, Monseigneur de Montal ne pouvait que répondre au désir d'apaisement. Et le général Contreille, le maréchal Contreille et sa famille donna à l'abbé Moutu l'ordre de recevoir les corps en son église. Et là, évidemment, Monseigneur Clausel de Montal était dans une situation très difficile, parce que où il affrontait directement le Contreille maréchal, okay, et la foule qui était derrière lui, où respectait donc sa règle, aussi rigide soit-elle. Alors, l'abbé Motu se dit, de toute façon, si je contrarie le Contreille, ça va être terrible pour moi. Mais si je contrarie Monseigneur Clausel, ça va être aussi terrible pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y avait 3 000 personnes dehors. Donc, il a dit, tout compte fait, je vais me faire lyncher si je ne fais pas rentrer chez Jean dans l'église. Et je vais transgresser la règle. Ainsi furent inhumés dans la même tombe, selon leur désir, en présence d'une foule recueillie et profondément émue, parmi laquelle, pour certains, le remords devait être plus cruel que la peine, les deux amants tragiques de Marbouët. Mais l'abbé Motu protesta à sa manière contre le passe-droit qui lui avait été imposé en ne dressant pas l'acte d'inhumation. Comme c'était la coutume au temps de Louis-Philippe, où le chansonnier Morinville chantait sur les foires et marchés des événements du jour, une complainte fut écrite et éditée à Marbouët, chez Barde, avec une superbe gravure. Parmi les chroniqueurs ayant évoqué cette affaire, on doit citer donc Albert Sidoine de Bonneval dans le numéro d'avril 1932 du Beauceron de Paris. Le rédacteur en chef était Charles Marcel Robillard, dont les ouvrages sur le folklore de la Beauce font autorité. Et comme j'ai le plaisir justement d'être un descendant de la famille également Robillard, si mon ancêtre Galerne était maire, Jean-Jacques, était maire de Marbouët, le chroniqueur, je le retrouve dans une autre branche, du côté de ma grand-mère paternelle.
Eh bien, grand merci Jean-Claude.